au réseau Cogeco.
Auto 360
avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Auto 360, voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagut.
Oui, nous sommes de retour en compagnie de Philippe et si vous vous souvenez, on a parlé de Corvette tout à l'heure et ça se poursuit, Philippe.
Ça se poursuit et puis là, je vais enchaîner ça avec un petit volet personnel parce que ça fait maintenant 26 ans que je suis chroniqueur automobile. J'ai officiellement commencé ma carrière en 1991 et j'ai conduit mes deux premières Corvettes cette année-là. Une décapotable verte en plein été, ça je vais m'en rappeler toute ma vie. J'étais allé au Saguenay d'ailleurs, on était à l'âge. J'ai fait une randonnée mémorable dans le parc des Laurentides là, jusqu'à Jonquière et une ZR1. Quelques mois plus tard, et ça aussi, je ne suis pas prêt de l'oublier, hein, 375 chevaux en 1991, c'était quelque chose. Ça laisse des traces, au propre comme au figuré. Alors, en 1991, la Corvette en était à sa quatrième génération, et c'est sans aucun doute l'une des plus importantes de son histoire, parce que c'est celle de la Renaissance. C'est celle qui lui a redonné ses lettres de noblesse là, après une longue traversée du désert. Il faut dire qu'avec la C4, on est parti d'une feuille blanche, avec des nouveaux visages, donc de nouvelles idées. Tous ceux qui étaient associés à la Corvette depuis sa naissance là, étaient soit partis à la retraite ou n'étaient plus de ce monde. Alors, la C4 a été conçue vraiment là, avec un regard neuf. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on a tout balayé sous le tapis. Là. La Corvette existait déjà depuis une trentaine d'années. Elle avait un passé, une histoire, un code génétique. Et visuellement, on a d'ailleurs respecté les codes esthétiques de la Corvette. Hein. Quand on regarde une C4, il n'y a aucun doute sur l'identité de la voiture. Mais pour le reste, tout est nouveau, à commencer par un nouveau châssis, beaucoup plus rigide que l'ancien, mais ça, c'était pas bien difficile. Hein? On corrigeait ainsi la principale lacune de la génération précédente. Là. Le comportement en est le premier à en bénéficier, d'autant plus qu'on a aussi redessiné les suspensions sur la C4. On a aussi beaucoup amélioré l'aérodynamisme, et ça, c'est un aspect auquel on portait pas tellement attention auparavant. La qualité d'assemblage, elle, ben, c'était carrément devenu une notion abstraite. Et là aussi, on a apporté des améliorations. On a même fait preuve d'audace avec un tableau de bord digital à l'époque, quand même.
Hein. Oui, hein. Je me souviens de ce tableau de bord.
Ben oui, ben, qu'on n'a pas gardé. Hein. À partir de 1990, on est revenu à un tableau de bord avec des cadrans analogiques. Là. Côté moteur, par contre, on a joué la carte de la continuité ou du conservatisme, c'est selon, avec le V8 de 5,7 litres, l'increvable 350. Mais à partir de l'année suivante, donc en 1985, l'injection remplace le bon vieux carburateur, ce qui fait passer la puissance à 230 chevaux. Si ça semble peu aujourd'hui, il faut quand même mentionner que la C4 est capable d'atteindre 240 km/h en vitesse de pointe, là, tout de même. Oui, c'est pas rien, puis surtout en 1985. Puis ici, il faut faire une précision importante parce que si je la fais pas, les disciples de la Corvette vont se faire un plaisir de le faire à ma place. Il n'y a pas eu de millésime 1983. Il n'y a pas de Corvette de l'année modèle 83. Pourtant, le lancement de la quatrième génération était prévu cette année-là pour que ça coïncide avec le 30e anniversaire de la Corvette. Mais comme on voulait vraiment repartir à neuf, avec une voiture capable de concurrencer les meilleures sportives de la planète, comme ça avait déjà été le cas, on a préféré sauter une année, question de se donner plus de temps là, pour corriger toutes les imperfections. Il y a quand même 43 Corvettes 1983 qui ont été construites, mais on les a finalement détruites, sauf une, qui est aujourd'hui au musée de l'usine Corvette de Bowling Green.
Et ça doit valoir une fortune, cette voiture-là. Oui, c'est pas d'aller l'acheter.
Inestimable.
Ça coûte cher, oui.
Alors, le cycle de vie de la quatrième génération va s'arrêter après 13 ans, en 1996, ce qui a place au second rang là, de l'histoire de la Corvette là, pour ce qui est de la longévité. En fait, l'arrivée de la C5 était prévue, elle, pour 1993, année du 40e anniversaire de la Corvette. Mais encore une fois, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Même que la C5 a failli ne jamais exister. Parce qu'au début des années 90, General Motors, qui avait toujours été synonyme de rentabilité, commence à avoir des sérieux problèmes financiers. Au point où l'avenir de la Corvette est remis en question. Heureusement, il y a des gens à l'interne qui vont se battre pour la sauver. Et la C5 va finalement être présentée au Salon de Détroit en janvier 1997. Et ceux qui se sont battus pour elle sont récompensés parce que ça fait longtemps qu'une nouvelle Corvette n'est pas aussi bien accueilli par la presse spécialisée. Il faut dire que sa puissance, là, 345 chevaux à l'époque, et son comportement la place en concurrence directe avec des voitures qui coûtent deux fois, sinon trois fois plus cher, là. Aston Martin, Ferrari, Porsche, ce qui est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Et moi, j'ai beaucoup aimé la Corvette C4, mais j'ai adoré la C5. En fait, je pense que je suis vraiment arrivé au bon moment là, dans ma carrière, parce qu'à partir de la C4, la Corvette s'est bonifiée de génération en génération. Et quand je dis bonifiée, j'inclus tous les aspects, là, raffinement mécanique, puissance, comportement, mais aussi l'ergonomie et la finition. Hein. Deux aspects qui n'étaient pas ses points forts, mettons.
Non, pas vraiment.
Et dans la C5, ben, c'était déjà beaucoup mieux que dans la C4. Et la progression a continué dans les C6 et C7. Encore une fois, on a essayé de faire coïncider le lancement de la sixième génération avec un anniversaire important de la Corvette, son 50e. Puis encore une fois, Daniel, il y a eu un contretemps. Parce que la C6 devait être lancée en 2003. Mais les attentats du 11 septembre 2001 et leur impact sur l'économie américaine ont retardé le processus de développement de la Corvette, de la C6. Même si son empattement est un petit peu plus long, la C6 est plus courte et plus légère que la C5. Et pour la première fois depuis des lunes, la cylindrée du V8 augmente. Elle passe de 5,7 à 6 litres, ce qui se traduit par une cinquantaine de chevaux supplémentaires. C'est donc dire qu'une C6 de base là, a droit à un moteur de 400 chevaux. Encore une fois, la Corvette continue de proposer un rapport prix-performance tout simplement inégalable. On dépasse même la barre des 500 chevaux avec la Z06, qui est une version plus puissante là, qui est dérivée directement des Corvettes qui courent aux 24 heures du Mans. Puis il y a aussi la ZR1 hein, avec son V8 de 6,2 litres qui est suralimenté par un compresseur qui va mettre la barre encore plus haute. Là, on tombe en plein délire. 638 chevaux et plus de 600 livres de couple. Et c'est important de préciser qu'à ce moment-là, le cours de pilotage est inclus dans le prix. Puis c'est vrai. Autre fait notable de la C6, qui est cosmétique cette fois, les phares escamotables disparaissent après trois générations. Sur le plan esthétique d'ailleurs, la C6, hein, ça ne plaît pas à tout le monde, mais au moins ses qualités routières font l'unanimité, c'est le principal. Moi, j'en ai conduit à deux reprises, puis à chaque fois, j'ai décrété que c'était la meilleure Corvette que j'avais conduite, surtout la 427 là, qu'on a déterrée là, vers la fin de la sixième génération. Ce qui nous amène, Daniel, à la C7, qui est celle que je connais le mieux, parce que c'est celle que j'ai conduite le plus souvent et parce que j'ai eu le privilège d'assister au lancement, il y a 3 ans, en Californie. Et de tous les lancements auxquels j'ai assisté dans ma carrière, c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué. D'abord parce que la Corvette est une icône et parce que c'est ma voiture de rêve, et aussi parce que cet événement m'a permis de rencontrer ses concepteurs. Puis il faut dire, hein, Daniel, que conduire une Corvette en Californie, c'est la conduire dans son habitat naturel.
Voilà.
Puis encore une fois, ben, l'histoire s'est répétée. Le lancement de la C7 a été compromis à cause de la faillite, la retentissante faillite de GM en 2009. Mmh. Heureusement, le gouvernement américain est venu à la rescousse de GM et la C7 a finalement été présentée au public en janvier 2013. Et pour une fois, elle n'a pas raté son anniversaire parce qu'en janvier 2013, elle célébrait ses 60 ans. Alors, la C7, ce n'est pas une évolution de celle qui l'a précédée, il faut le dire. C'est une toute nouvelle voiture, nouvelle carrosserie, nouveau châssis, nouveau moteur et nouvelle boîte de vitesse. Et comme toutes celles qui l'ont précédée, la C7 est en fibre de verre, sauf le toit et le capot qui sont en fibre de carbone. Et ça, évidemment, c'est pour la course au kilo. Son efficacité aérodynamique atteint elle aussi des sommets grâce aux précieuses informations qui ont été recueillies sur les circuits où les C5 et les C6 ont tout gagné. La structure en bénéficie elle aussi hein, parce qu'elle n'a jamais été aussi rigide grâce à son squelette en aluminium. Cet été, j'ai pu conduire la version Grand Sport et ça, Daniel, je ne sais pas si tu l'as conduit, mais ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, hein. Parce que, en résumé, là, une Grand Sport, c'est une Z06, moins de moteur. Donc, une Corvette qui est conçue avant tout pour la piste. Alors, c'est une version sport extrême, avec des réglages plus fermes et des pneus qui sont presque lisses. Là. T'sais, vraiment des pneus conçus pour la piste. Et ça, je peux te le dire, là, vous allez sentir chaque petite roche et chaque fissure avec ces gros slicks. Là. Sans parler des secousses quand on roule dans les ornières, c'est effrayant. Là. Ça réagit, là, c'est déstabilisant. la grand sport, peut-être encore une fois à cause de mon âge vénérable, mes 53 ans, mais très peu pour moi, je décrète. Écoute, Daniel, ça porte vraiment trop dur. Je vous ai dit hein, que j'avais perdu des plombages en conduisant la Mustang Shelby il y a une couple de semaines. Ben, j'ai perdu ceux qui me restaient avec la Corvette Grand Sport. Ça porte vraiment trop dur. Puis il faut y penser deux fois hein, avant d'investir 80 000 $ dans une voiture qui n'est vraiment pas adaptée à un usage quotidien. Moi, en ce qui me concerne, en tout cas...
Il faut faire l'essai et voir la différence avec la version régulière. Si exact, tu vas avoir exact. Toute cette façon, tout ce réglage et ces réglages, parce que ça, c'est une bonne façon de le dire, Philippe, ces réglages-là, comparativement à celles du modèle de base, parce que le modèle de base est puissant et confortable et utilisable à tous les jours, celle-là, un peu moins.
Tout à fait d'accord. Moi, en ce qui me concerne, là, une Corvette manuelle avec le groupe d'options Z51, c'est la vraie affaire. Parce qu'à moins d'être un pilote professionnel, là, vous allez atteindre vos propres limites bien avant celles de la Corvette. Et si, comme moi, vous n'êtes pas un champion des circuits, là, l'équilibre général de cette voiture, puis ses aides à la conduite, de toute façon, ça va vous faire bien paraître. Parce que, quand même, là, la Corvette, c'est une voiture qui freine aussi fort qu'elle accélère. C'est une voiture qui tourne avec une précision chirurgicale. Puis, ses gros pneus de 21 pouces là, mange littéralement l'asphalte. Puis la Corvette, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi, Daniel, c'est une bête qui est très docile, hein, qui est facile à conduire, surtout avec la boîte automatique. La boîte manuelle, ça demande un petit peu plus d'effort, là, surtout à cause de son embrayage qui est assez ferme. Mais sinon, la Corvette n'a jamais été aussi civilisée. Même en mode sport, j'ai ressenti aucun inconfort. J'ai passé des journées complètes dedans, là. Puis pour obtenir un roulement encore plus doux, on peut en plus opter pour le mode touring. Puis si on veut une conduite vraiment sportive, ben il y a le mode track. Alors vraiment, il y a de tout pour tous les goûts. Puis en résumé, une phrase, la Corvette est meilleure que jamais. Voilà. Hein? Ses performances et sa tenue de route, là, c'est du calibre Porsche ou Ferrari pour la moitié et même le tiers du prix. Et dans l'univers des sportives, c'est encore celle qui en donne le plus pour son argent. Puis là, ça va être intéressant de voir ce qui nous attend avec la C8, hein, parce que la C8 s'en vient l'année prochaine avec fort probablement un moteur central, parce que là, les photos espions, là, ça sort de tout bord, de tout côté.
Ce n'est même plus discret. Là.
Ouais, c'est peut-être le secret le moins bien gardé. Là.
J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner.
Ah, moi aussi.
Parce que là, on peut imaginer là, les designs de Ferrari. Là, on peut imaginer qu'ils vont aller un peu plus loin au niveau du design. Et là, ça va devenir genre la plus exotique des Américaines.
En tout cas, ça va être une révolution pour la Corvette, une révolution sur le plan de l'architecture. Mécaniquement, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on nous promet, mais côté puissance, regarde là, quelle puissance on atteint avec les versions les plus puissantes, la Z06, la ZR1. On risque d'avoir au moins une version avec un moteur dont la puissance pourrait dépasser les 700 chevaux, hein, le chiffre magique. De Absolument. Toute façon, Chrysler a déjà des moteurs à 700 chevaux, là, les L4. Là.
Est-ce que ça va être seulement une version différente de la Corvette? Parce que est-ce qu'on devrait continuer la Corvette actuelle? J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire. D'après moi, au début, on va nous la lancer comme une version spéciale de la Corvette pour en faire une version régulière plus tard.
C'est ce que disent les rumeurs. Les rumeurs disent que la première année, en tout cas, donc 2018, il va y avoir une Corvette telle qu'on la connaît avec moteur avant et il va y avoir la nouvelle Corvette aussi à moteur central, celle qu'on surnomme la Zora, en hommage à un des créateurs de la Corvette, le Zora Arcus Dontov. Donc, on devrait avoir, à tout le moins pour la première année, là, pour 2018, on devrait avoir simultanément les deux modèles. Après ça, on est vraiment là, dans l'univers de la spéculation.
Pour conclure, Philippe, on peut-tu dire que dans la voiture super sport, la Corvette, rapport qualité-prix, c'est la meilleure?
Moi, c'est, je te dis, c'est ma voiture de rêve. Il n'y a pas une voiture qui offre un rapport qualité-prix-performance comparable à ça. Pas une.
Merci beaucoup, Philippe.
C'est un plaisir.
Le plaisir est partagé.
Salut, Daniel.
Salut, Philippe. Alors, voilà, on vous parle jusqu'à la fin de l'émission. Au retour.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Auto 360 avec Daniel Boudreau.
On prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Au réseau Cogeco, Auto 360
avec Daniel Boudreau.
L'automobile sous toutes ses soutures, ses coutures, c'est en tout cas.
Auto 360.
Oh, j'adore cette présentation. Nous sommes de retour et je vous ai posé une question courtoisie au volant. quels sont les comportements des automobilistes qui vous répugnent, qui vous agressent, qu'est-ce que vous aimez pas. Il y en a plusieurs choses et Patrick est là depuis longtemps. Salut Patrick.
Bonjour, votre sujet m'intéresse grandement, mais j'ai une question qui me brûle la langue depuis un petit peu de temps. Une question garantie avec Ford. J'ai acheté un C-Max Energy il y a deux ans de ça. J'ai fait 45 000 km avec à date. Au début, j'étais capable de faire près de 50 km avec une charge, ce qui était exactement ce que je faisais par jour. C'était parfait, je ne consommais pas d'essence. Maintenant, après deux ans, je fais à peu près 31-32 km avec une charge, m'amène à consommer quand même un petit peu d'énergie thermique dans le sens. J'ai été voir les concessionnaires de Ford et ont mesuré la capacité de la batterie qui est passée de 6 kW à 4,5-4,6 kW. Donc, je leur ai demandé c'était quoi la limite à laquelle Ford changeait les batteries. Puis après trois concessionnaires et des heures d'appel avec le service clientèle de Ford, ils n'ont jamais été capables de donner la valeur à laquelle ils allaient changer les batteries. Donc, je viens un petit peu sur le net. J'ai trouvé sur les sites américains. Depuis 2013, avait des dégradations jusqu'à 3 kW. Et Ford continue à ne pas changer ces batteries-là, à ne pas respecter un pourcentage de dégradation sur lequel ils devraient faire un changement de batterie. Qu'est-ce que je fais avec ma voiture?
En fait, il faut savoir que Ford, effectivement, est une des rares compagnies qui n'a pas fixé de seuil à ses batteries. Quand vous allez chez Mercedes, on vous dit que jusqu'à 70 % de la valeur de la batterie, c'est comme si elle était correcte. En bas de 70 %, on les change. Ford, actuellement, c'est une des rares compagnies qui ne l'a pas fait. Alors, je comprends pourquoi le concessionnaire est un peu mal pris, autant que vous l'êtes
parce
avec ça, malheureusement.
Il n'y a pas de barème, il n'y a pas d'outils pour travailler.
Je voudrais bien faire une mise en demeure envers le concessionnaire, mais ça ne donnera absolument rien.
En fait, c'est davantage envers Ford.
S'ils avaient fixé à 4 kW et là, vous seriez à 3,8, là, vous pourriez vraiment chialer. Mais comme il n'y a pas de barème de préétabli, alors là, vous vous retrouvez devant rien et vous êtes obligé d'accepter la diminution de puissance de la batterie.
La possibilité, c'est peut-être de passer par une loi de protection du consommateur parce que c'est une dégradation, une usure anormalement rapide. Ça, c'est au Québec seulement. Vous pouvez essayer dans ce cadre-là, mais honnêtement, c'est un processus qui risque d'être un petit peu ardu. Là.
Effectivement.
Oui.
On vous l'a pas dit, mais on vous le suggère. Merci beaucoup, Patrick. Jacques est en ligne maintenant. Bonjour, Jacques.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
J'ai acheté une Outback 2015.
Ouais.
Et à 1775 km, on a été obligé d'ouvrir le moteur. Et on a découvert que, je vous dis le terme anglais, les coussinets, les insert bearings là, sur les quatre bielles, étaient hors, il y avait trois sur quatre qui étaient hors normes. Ils se sont empressés de réparer le moteur plutôt que de le changer ou de reprendre l'auto. Et la loi de protection du consommateur dit que si je vends ma voiture à un particulier, je dois déclarer tout travaux majeurs.
Oui, est-ce que j'ai un recours? Ça va rassurer le consommateur.
Oui. Est-ce que j'ai un recours contre Subaru dans un cas comme ça?
Pour avez-vous un problème? Et la dévaluation, est-ce que la voiture est en problème présentement? Non, ils l'ont réparée, elle va bien.
J'ai 19 000 kilos.
Oui.
Et pour ajouter une insulte, là, ils ont pris une pièce dans un autre moteur pour faire la réparation du mien.
OK.
Ça, c'est bien indiqué là, sur le bon travail du mécanicien. Et là, j'ai 19 000 kilos. Quand il fait froid, le moteur a tendance à cogner ou à basse révolution à certains moments. Qu'est-ce que je peux faire avec? Est-ce qu'ils auraient dû reprendre la voiture ou changer le moteur au complet?
Non, la procédure, c'est de changer le moteur. 2015, par contre... Il me semble que du côté de chez Subaru, on ne nous avait pas dit que c'était réglé, ces affaires-là, à partir de 2013-2014. Et là, 2015, on commence à avoir des problèmes.
C'est notre troisième Subaru, puis on a connu des problèmes de cognage de moteur. Mais ça, celui-là, il s'est
apporté. Mais là, s'il cogne encore, vous retournez chez votre concessionnaire, puis ils vont vous faire le changement du moteur, parce que c'est dans les procédures de Subaru.
Bien, ils ne l'ont pas fait, puis ils ne veulent pas le faire.
Ça dépend comment ce qui cogne aussi. Hein. Rappelez-vous que c'est un moteur boxer qui a tendance à cogner quand il est à froid. C'est un moteur qui traditionnellement le faisait très fort avant, le fait moins maintenant, mais continue de le faire. C'est sûr que ça, c'est l'évaluation qu'ils doivent en faire. Mais non, ils n'étaient pas tenus de changer le moteur s'ils étaient capables de réparer les pièces défectueuses. Ben oui, dans votre cas, il semble qu'ils l'ont fait puisque vous n'avez pas réellement de problème.
Avant la fin de la garantie, vous devez retourner chez votre concessionnaire et avec le tas, c'est le bon mot, là, avec le tas de problèmes et de moteurs qu'ils ont changés, c'est sûr que à venir jusqu'à maintenant, moi, j'ai eu des plaintes parce que c'est toujours tannant d'aller chez le garage, chez le concessionnaire, puis d'avoir à faire remplacer son moteur, mais Subaru ont pris leur responsabilité à venir jusqu'à maintenant. Si jamais ils ne le font pas vers la fin de la garantie, vous nous rappelez puis on va le dire.
Bon, ben, correct, écoutez, ça? Je le ferai. Mais je vous remercie.
Merci d'avoir appelé.
Bonne journée.
Et d'avoir partagé ça avec nous. Et bonne chance. Et j'espère que les concessionnaires Subaru vont prendre leurs responsabilités. Alain est là. Bonjour, Alain.
Félicitations à votre émission, monsieur.
Merci.
À propos de la conduite des gens, vous savez qu'est-ce que c'est l'enfer de la métropolitaine à 40?
Eh boy.
Oui.
L'enfer total, de gauche à droite, pas de clignotant. On dirait qu'il y a des gens, là, dans la vie, là, ils ont eu leur permis de conduire d'une voiture de crack à Jack.
Ben, ça vous savez, sens, depuis que le dicton le dit, je commence à le croire qu'il y en a eu des permis dans ces boîtes.
Ben oui, mais ça n'a pas de sens. Il devrait y avoir des revisions de ces gens-là. Hey, puis en plus, à 401, écoutez bien, monsieur, là. À 401, là, la voie de droite, là, à 100, c'est permis, d'accord? Puis les vans le conduisent là. La voie du sort, ils te permettent d'aller jusqu'à 105, OK? 105, pas de problème. Dans la voie de gauche, 110, 115, ils le permettent. Mais je roule avec mon auto à 115, le mode individu, très bon conducteur, souvent, il me pousse dans le derrière, il est pressé, il va aller encore plus vite. Allez, s'il vous plaît, je reste là. Je donne pas la voie, j'ai le doigt à 115, s'il vous plaît. Je vais aller à 115. Non, il me passe à dans le bras du centre, il vient me couper en plus.
Alain, ça revient au thème. Au thème d'aujourd'hui, oui. La courtoisie. Les gens savent conduire, mais ils sont pas courtois, sont irrespectueux. C'est ça, aujourd'hui, les conducteurs.
Oui, vous devez de prendre la voie, même la troisième voie de droite, puis d'aller couper, aller à voie de le numéro 1. Ça n'a pas de chance, là. C'est quoi, ça, par là? C'est un danger public, ça?
Non, effectivement. Merci, Alain.
Juste un détail, cependant, si vous êtes dans la voie puis qu'il n'y a personne dans la voie à votre droite, idéalement, tassez-vous dans la voie de droite. La voie la plus à gauche, elle est toujours pour dépasser. Normalement, vous devez être là de façon temporaire. Vous ne devez pas rouler de façon permanente dans la voie de gauche. Peu importe où aller, peu importe à quelle vitesse vous roulez. Là.
On se l'approprie aujourd'hui. Sylvain est là. Bonjour, Sylvain.
Oui, bonjour. Alors, moi, c'est le clignotant, évidemment. Clignotant, c'est optionnel sur les voitures au Québec.
Ça a été long avant que quelqu'un vienne chialer, parce que moi, c'est ce qui m'horripile le plus.
Ah oui. Ou sinon, quand on vient pour faire le zipper, c'est pas qu'on est sexiste, mais on dirait que les femmes ont des œillères, puis ils disent « Non, toi, tu passeras pas, je t'arrive avant toi. » Alors ça, c'est... Ils se tournent pas la tête pour te regarder, hein, c'est sûr. Mais moi, le but de mon appel, c'est que je voulais savoir, moi, je suis un gars de use, j'ai toujours acheté des voitures usagées, et j'avais envie d'avoir une berline de luxe 4 roues motrices, et j'avais regardé pour un Mercedes classe E, j'avais regardé pour le plus haut de gamme de Legacy ou Audi A6, et finalement, j'ai opté pour un Genesis. Et je me demandais, au niveau du 4 roues motrices, ça va être mon premier 4 roues motrices cet hiver, le H-Track. Qu'est-ce que ça dit? Moi, je sais que Audi et Subaru, c'est les meilleurs 4 roues motrices. On a toujours entendu dire ça. Qu'est-ce que ça donne?
Le H-Track, c'est un système de traction intégrale qui est très avancé du côté de chez Hyundai Genesis. Vous allez vraiment apprécier. Ça vous prend d'abord, pour vraiment l'apprécier, 4 bons pneus à neige. Là. Ça va être la première des choses. Si vous avez 4 bons pneus et le système de traction intégrale de Genesis, il va vous permettre de gérer. En fait, il gère en temps réel la traction. Donc, vous allez avoir de la traction qui va passer de roue gauche à roue droite et qui va pouvoir travailler un peu en X également. Et c'est un système qui se ressemble beaucoup ou qui copie énormément ce que fait Audi, par exemple, ou ce que fait aussi du côté de chez Subaru. Donc, c'est ce genre de système-là.
Effectivement, il y a un des temps de réaction les plus rapides parce que, bon, vous savez, les tractions intégrales comme ça, c'est théoriquement deux roues motrices et ça intervient quand ils sentent une perte d'adhérence. C'est un des temps de réaction les plus rapides, le H-Track, qui est presque, il est équivalent de celui Audi, en fait, même un peu plus rapide que celui de Subaru. Il a tendance, cependant, évidemment, à réagir plus fortement parce que la voiture est un peu plus lourde qu'une Subaru, mais vous aurez absolument aucune misère. Mais Daniel le dit, la clé, quatre bons pneus, lésinez pas là-dessus. Vous aimez les voitures usagées, faites pas la même chose avec les pneus, en tout cas.
Non.
Et vous allez apprécier non, votre voiture, c'est que moi, en passant, c'est un excellent choix, la Genesis.
Ben, moi, je garde mes voitures longtemps et j'aime avoir des voitures qui ont une forte dépréciation, mais qui n'ont pas de troubles. Et j'ai eu du Optima Kia, j'allais jamais au garage. Fait que quand j'ai vu ça, que Genesis faisait Hyundai, qui s'acquit comme Kia, comme j'ai jamais été au garage avec mon Optima usagé, et on paye ça presque 50% de sa valeur après 2 ans et demi. Là.
Et moi, Sylvain, je prédis, plutôt que Genesis va être la division de luxe qui va avoir le plus de succès au cours des prochains mois, des prochaines années. Ça va monter, ça, avec l'arrivée du sport utilitaire et des autres véhicules. Merci beaucoup d'avoir appelé. On s'arrête là. Éric est en ligne et plein d'autres. On prend les appels au retour.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Petite pause. On vient ensuite. Restez là. Au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
Oui, Daniel Boudreau. Hey, 2 heures avec Daniel Boudreau, ça serait long. Marc Bouchard est là aussi. Philippe Lagu de temps en temps.
J'ai rien dit.
T'as rien dit?
Non.
Hey, Marc, je réfléchissais comme ça. Là. Ça m'arrive. Est-ce que Subaru ne devrait pas considérer un autre type de moteur que le Boxster?
Ben,
je pense encore à l'auditeur de tantôt.
Ouais, mais en fait, je comprends pas leur idée. On le sait, ça fait des années que les moteurs Subaru, ça cogne. On le sait, tout le monde le sait. Ça prend de l'huile, les moteurs Boxer. La façon dont c'est fait, c'est conçu pour ça. On en discutait un peu hors d'onde tantôt. Le seul moteur Subaru qui, jusqu'à maintenant, semble ne pas avoir de problème, c'est celui de la BRZ.
Ben oui.
Et c'est celui pour lequel Toyota a installé son système d'injection.
C'est ça.
Fait qu'on devrait peut-être...
Ça a un lien.
Je sais pas
si on... évidemment, c'est vendu à très faible volume, donc c'est pas tout à fait la même affaire qu'un Outback ou une Preza.
Ouais, mais j'ai juste 10
000 je sais pas. Je réfléchis à ça, là, puis je me dis, voyons, ça finit plus par finir, leur problème. Je comprends que le centre de gravité est bas. Je comprends que le moteur a du couple. Je comprends qu'il est doux. Quand il cogne pas, il est doux. Et je conduis une Outback à présentement, et c'est une voiture qui est extrêmement douce, qui est bien insonorisée, qui va bien, qui a un bon rendement. Tu te croirais dans la Outback que j'ai, tu te croirais dans un véhicule haut de gamme.
Effectivement. Oh, oui, non, c'est silencieux. Calme. C'est incroyable.
Je sais pas.
Mais t'as raison, les moteurs froids, ça cogne, c'est désagréable, on sait pas trop où ça s'en va.
Si on enlève ça, ce désagrément-là, c'est une marque parfaite pour nous ici au Québec.
Oui, exactement. Parfaite. Ça, je suis d'accord.
Puis si on regarde les prix, ils sont dans le prix en plus. Alors, je me dis peut-être qu'on devrait regarder d'autres choses de ce côté-là. Éric est en ligne. Bonjour, Éric.
Salut, ça va?
Ben oui, superbe.
Moi, je te dirais pas ce qui m'énerve sur la route. On a un blondé, on laisse en rentrer. Je t'appelle pour savoir un règlement pour les PK.
Oui.
Je voyais aux États-Unis toutes les semaines, camionneur, puis je trouvais PK, puis là, c'est monté 6-7 pouces de haut, dans Wendon. La réglementation au Québec, c'est quoi pour un PK? Le lifter.
Oh, c'est une bonne question. On va chercher ça, mais...
On disait à moi 2 pouces.
Je me souviens pas de... Comment?
Je sais que les
on
Jeep...
On disait 2 pouces. Hein?
Les Jeep, on n'a pas le droit à plus que 2,5 pouces.
C'est 2 pouces, 2,5?
Ouais, ça, c'est pour les Jeep. Mais je vais vérifier si...
D'après moi, ça doit être la même affaire pour les camions. Quand c'est 2 pouces au-delà de ce qui est sorti de l'usine.
Effectivement.
C'est-tu en haut du pneu, parti en haut du pneu allant en dessous des ailes?
En haut du pneu allant en dessous des ailes, exactement.
Et c'est 2,5 pouces, 6,4 cm exactement. C'est ce qui est permis pour tous les véhicules surélevés au Québec.
C'est
que ce soit pick-up ou Jeep, là, c'est ça, 2,5.
Y a-t-il une raison?
Ben, c'est une question d'équilibre, c'est une question aussi au niveau des suspensions, c'est une question de sécurité, il y a plein d'affaires. Par contre, on peut tricher un peu, c'est-à-dire qu'on fait 2,5 avec la suspension, mais on peut faire 1,5 pouces avec les pneus. Fait que, tu sais, dans le fond, on peut avoir comme 4 pouces plus haut là, si on utilise les deux. Là.
On diminue les pneus.
Hein?
Oui, c'est ça. On peut jouer avec ça.
Ça, c'est légal.
Mais je sais pas, ça a peut-être un rapport avec le centre de gravité qui est un peu plus élevé. Donc, évidemment, dans certaines conditions de conduite, ça peut causer certains problèmes.
Oui, et puis en plus, il y a toute une question aussi de consommation. Quand vous surélevez comme ça, vous avez généralement des pneus plus gros, vous avez une consommation qui est plus élevée.
Est-ce que
donc,
les policiers vérifient vraiment ça?
Ah, ben quand on a un pick-up, on regarde pas le... On regarde pas le fuel qu'on a dedans.
Non, ça non, c'est sûr.
J'espère pour vous. Parce que
merci
vous
beaucoup d'avoir appelé, Eric, bien gentil.
Ah, merci, bonne journée.
Bye bye. Mara est en ligne. Bonjour, Mara.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Allô? Moi, là, je suis souvent dans la voie de gauche. Alors, c'est 100. Si on va plus bas que 100, ça énerve les autres conducteurs, n'est-ce pas?
Absolument.
Alors, sur l'autoroute, c'est écrit maximum 100, mm-hmm. minimum 60.
Oui.
Moi, là, si ça me tente pas d'aller plus vite que 60, dans les autres voies, je suis capable de les faire, n'est-ce pas?
Absolument.
C'est pas tout à fait exact. Ben, le code de la sécurité routière dit bien que la voie de gauche, c'est une voie de dépassement. Donc, elle doit servir uniquement de façon temporaire à dépasser un autre véhicule. Si vous roulez 60 sur l'autoroute, vous avez le droit, mais vous devez le faire dans la voie de droite.
Voilà, merci. L'autre chose là, vous savez quand on est sur le métropolitain là, qu'on veut aller au travail, c'est la voie qui est vide, on le prend à 70. Est-ce que je dois augmenter ma vitesse parce qu'il y en a un autre en arrière de moi qui est pressé?
Madame, vous conduisez jamais pour les autres. Vous conduisez à la vitesse où vous vous sentez en sécurité, dans la mesure où votre comportement n'affecte pas non plus ce que les autres font. Comme le meilleur exemple, c'est ce que je viens de vous expliquer au niveau de la voie de gauche. Mais non, vous n'êtes pas obligé d'augmenter votre vitesse. Vous allez à la vitesse à laquelle vous vous sentez confortable.
Et
mais il
ne
faut pas non plus être un danger pour les autres.
Si vous conduisez pour les gens pressés en arrière de vous, ça finira jamais. Là. Vous allez finir à 200 km/h sur l'autoroute. Donc,
voilà.
Vous devez conduire pour la vitesse à laquelle vous êtes à l'aise avec. Merci beaucoup d'avoir appelé, bien gentil. Jean-Paul est en ligne. Bonjour, Jean-Paul.
Oui, monsieur. Equinox 2018 avec
yes.
le 1.5. C'est
yes.
préférable aux 2 litres ou 1.5.
Est-ce que vous tractez?
Non.
Remorque en arrière?
Non, jamais.
Faites de la route régulièrement, embarquez des gens à l'intérieur?
Oh non, je fais en bas de 10 000 km par année.
En bas de 10 000 km, utilisation en ville principalement?
Oui, en ville, c'est peut-être moitié autoroute. Là.
1.5, sans problème. Bon petit moteur qui va vous donner de l'économie de carburant. Moi, j'ai été impressionné par sa puissance quand même. Évidemment, vous allez le sentir gronder. Si vous avez besoin de vous accélérer rapidement,
ouais.
Vous allez le sentir gronder, vous allez sentir les vibrations à l'intérieur. Mais
ouais.
Il est bien insonorisé quand même. Et va faire le travail amplement, puis évidemment, va vous donner de l'économie. Sa transmission travaille bien aussi. J'aime l'aménagement, j'aime ce nouveau véhicule que je viens de placer dans les premiers choix. Là. On parle toujours... Là,
mais c'est sûr que ça ne vaut pas la peine d'aller investir les quelques milliers de dollars supplémentaires pour le 2 litres, compte tenu de l'usage que vous en faites. Là. Vous n'avez pas besoin de ça. Et ça ne sera pas... Les désagréments dont Daniel parle, ça va arriver tellement peu souvent
c'est
que
ça.
Vous allez finir par les oublier rapidement.
Oui, bien, j'ai même essayé la CRV, le nouveau, il y a 1.5. C'est la même chose. Les vibrations sont là, la même affaire.
La même chose. La même chose.
En
utilisation normale, vraiment, là, ces petits moteurs-là sont quand même... agréable et il vous donne l'économie de carburant.
Bon, OK. L'autre affaire, l'Equinox, il est pourvu du stop and go, tu sais, à l'arrêt. Là.
Mm.
Oui.
Est-ce que ça vaut vraiment la peine ou c'est désactivable, ça?
C'est désactivable.
C'est désactivable.
Mais ça vaut la peine.
ça vaut la peine tant que ça?
Oui.
Ça vaut la peine, sauf dans certaines situations où, moi, ça m'agace, c'est le trafic qui avance lentement. Tu sais, tu avances un petit peu, t'arrêtes, le système arrête. Mais là, ouais, le trafic, là, tu veux réavancer un petit peu, tu lâches ton pied du frein, là, le moteur démarre, il arrête. Et il y a certaines situations, mais quand tu arrives à un feu, par exemple, là, il s'éteint, et là, tu es au feu pour un certain temps, là, ça vaut la peine, là, vraiment, le moteur s'éteint, tu repars. Mais à la longue, dans le trafic, ça peut venir un peu agaçant. C'est pour ça qu'il y a un bouton pour désactiver cette affaire-là. Merci beaucoup d'avoir appelé. On s'arrête pour une pause, puis au retour, on continue les appels. Restez là.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Auto 360 avec Daniel Boudreau.
On prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Au réseau Cogeco, Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
L'automobile sous toutes ses soutures, ses coutures, c'est en tout cas.
Auto 360.
Nous voilà de retour et Renaud est en ligne. Bonjour Renaud.
Oui, bonjour. Je voulais vous faire part d'une situation que je viens de constater. Je ne sais pas si vous étiez au courant, il y a un projet pilote du gouvernement provincial qui offre 4 000 $ à l'achat d'une voiture électrique, mais d'occasion. Et oui. Il y a quelques petites précautions à prendre pour un futur acheteur, entre autres. Il y a des petits caractères associés à cette offre-là. Entre autres, on doit, une fois qu'on est rendu à concession, souvent on va apprendre qu'il faut prendre une garantie prolongée par choc à par choc. Même si les véhicules sont fiables et que les batteries sont encore garanties 8 ans, on nous force à prendre du pare-choc à pare-choc, qui va coûter souvent plus que le 4 000 $ qui est la réduction gouvernementale.
C'est obligatoire. Un des points.
Obligatoire, monsieur. Ça fait que les concessionnaires se trouvent à... On sait que les marges sont assez bonnes sur ces garanties.
Ça m'étonne que ça soit obligatoire qu'on doit prendre une garantie. Marc est en train de vérifier ça. Ouais. Notre salle des nouvelles est sur le site. Je comprends que c'est des voitures qui proviennent de l'extérieur, parce que pour avoir droit aux 4 000 $, c'est des voitures qui proviennent de l'extérieur du Québec, donc qui n'ont pas bénéficié du 8 000 $ québécois.
Ça, c'est l'autre avertissement. Contrairement au plan sur la voiture neuve qui peut donner jusqu'à 8 000 $, c'est la responsabilité de l'acquéreur de s'assurer que cette voiture-là n'a jamais été immatriculée au Québec.
Ah, c'est la responsabilité
donc,
de la
une informa... Oui, c'est pas une information qui est facile à trouver nécessairement.
Aussi, mais en fait, le problème ici, moi, je suis sur le site véhiculeélectrique.gouv.qc.ca et on dit effectivement que ça doit être immatriculé au Québec pour la première fois lors de la transaction et être pourvu d'une garantie sur l'ensemble du véhicule d'au moins 3 ans ou 40 000 km selon le premier des deux
moyenne. Et ça, c'est en moyenne entre 3 et 4 500 $ que le concessionnaire va vous charger. L'autre affaire aussi, il accepte tous les véhicules électriques qui sont généralement considérés, incluant la BMW i3 avec l'extension de range, avec la génératrice, sauf la Volt, qui, elle, en neuve, est considérée électrique, et en occasion, il ne la considère pas électrique, si vous regardez dans la liste des véhicules admissibles.
Effectivement.
Vous avez tout à fait raison, mon cher monsieur. C'est absolument inadmissible.
Ça a soit été monté par des fonctionnaires qui connaissaient pas le domaine de l'auto.
Ou soit qui voulaient pas donner de travail.
Ça, c'est un projet pilote, fait que ça va peut-être continuer ou s'arrêter, mais c'est pas très populaire, ça fait quelques mois, puis je pense que même pas 100 véhicules, on le voit sur le site. Là.
Non, donc, il y en a 102 actuellement.
Ouais. Et monsieur, si je peux me permettre, c'est que les concessionnaires Nissan se sont, entre autres, arrangés pour enlever tous ces désagréments-là. On a reçu un communiqué où eux font vraiment tout le travail pour le consommateur. Et ils nous disent que même, on s'assure que si les feux de jour, par exemple, si c'est une voiture américaine, on s'assure que tout soit en règle. On change même le bloc instrument et il y a une liste de vérification à faire par le concessionnaire. Donc, évidemment, dans ce cas-ci, je suggère vraiment de faire affaire avec les concessionnaires pour justement éviter des désagréments. Merci beaucoup d'avoir appelé. On a Bruno en ligne. Bonjour, Bruno.
Oui, bonjour. Bonjour. Deux points. Pour rester dans le sujet de votre émission, ce qui m'agace le plus, c'est l'art délicat du stationnement. quand tu n'es pas capable de manœuvrer ton véhicule ou que tu as besoin d'une caméra de recul ou que tu es tellement croche entre les deux lignes que je ne suis pas capable de me parquer à côté de toi, c'est peut-être pas une voiture pour toi. Ou tu devrais carrément pas conduire. Mon deuxième point, je vais faire ça vite. Ma prochaine voiture va être un pick-up, ça c'est sûr. Ouais. Mais j'hésite entre les intermédiaires et les plans de grandeur parce que l'intermédiaire, finalement, vient qu'à coûter tellement cher si tu veux quelque chose de potable que tu es mieux de commencer avec un tout nu plan de grandeur.
Mais ça dépend de tes besoins. Je comprends vraiment que c'est le fun d'avoir un gros pick-up, mais si vous n'avez pas besoin du gros pick-up, ben gâtez-vous avec l'équipement du pick-up intermédiaire. Je prends par exemple un Colorado Canyon, un Tacoma du côté de chez Toyota. Vous allez avoir tout un véhicule si vous n'avez pas besoin de la grosseur et des capacités du gros véhicule.
Oui, ben genre, je m'en fais d'un en ligne, par exemple le Colorado ou le Canyon. Puis si je veux quelque chose d'automatique, qu'un 6 dedans, je pète les 35 000, même à feu le Tacoma, Il m'a popé dans le front à 32 000 sur le site Internet de Toyota Canada. Pour ce prix-là, 32 000, moi, j'ai un Sierra, un petit, là, de base, vraiment tout nu.
Mais avez-vous besoin du Sierra? Pourquoi vous prendriez un gros pick-up quand vous n'en avez pas besoin? Le petit, le Colorado, là, va faire amplement le travail. Et vous allez être capable de charger dans la boîte, vous allez être capable de tracter, vous allez avoir de l'équipement, vous allez avoir du confort, du luxe, de la tenue de route, bref, vous allez avoir tout ce que vous avez besoin sans l'encombrement d'un méga gros camion. Merci beaucoup, Marc, merci à Philippe, merci à vous d'avoir été là.
Bonne semaine, mon cher.
Bonne semaine, on se reparle la semaine prochaine pour un autre Auto 360.
Soyez là samedi prochain pour une autre édition d'Auto 360 avec Daniel Boudreau.